on a travaillé conjointement avec Aurore pour le rapportage, même si c'est moi qui prends la parole à présent. On avait une cinquantaine de personnes. Les exposés ont été appréciés, je pense pas m'avancer en disant ça. En tout cas, nous, dans l'exercice de restitution, on a remesuré toute la richesse. On a été assez attentifs durant la session également. Alors, le premier point qui est ressorti des différents exposés, qui était au nombre de 6...
7.
Merci. Ah, ça marche mieux. Le premier point, c'est beaucoup de discussions et d'éléments apportés sur le défaut de continuité écologique, et en particulier sous l'angle de la faune piscicole du saumon. Alors, continuité écologique, c'est des obstacles physiques, mais ça peut être d'autres types de barrières. Voilà. Et finalement, on est en plein dans la qualité quand on parle de ça, parce que c'est un tout indissociable, même si historiquement, dans la réglementation, on dissociait l'accès de la qualité chimique de l'eau, tout ça est en interaction, et c'est des problèmes assez fondamentaux. Alors, dans un premier exposé de mon collègue Philippe Barrand, a été restituée l'expertise de toute la partie de l'Allier qui est domaine public fluvial. Donc ça va pratiquement jusqu'à Poutès, de la confluence de la Loire à Poutès. Il y a 16 obstacles, et le résultat global, c'est que c'est beaucoup plus pénalisant, après expertise, que ce qu'on pouvait avoir comme perception diffuse auparavant. Donc des difficultés ont été remises à jour de manière assez précise, avec des solutions à trouver à échéance brève, parce que c'est une partie de l'Allier qui n'est pas très favorable à la survie, notamment estivale, des saumons. Il faut donc que ces poissons transitent rapidement pour gagner des zones beaucoup plus favorables à leur vie et ultérieurement à leur reproduction. Voilà. Parmi ces obstacles, 3 microcentrales dont les problèmes sont très anciens, connus et toujours pas résolus. Donc, ce qui quand même pose question. Alors, en gros, comme sur tous les axes qui sont obstrués par des obstacles physiques, par des seuils, on a cet effet de cumul. D'où la question, même si c'est pour la Loire que c'est appliqué, est-on sur Loire-Allier le plus grand fleuve sauvage d'Europe? Peut-être que oui, mais est-il si sauvage que ça? Probablement que non. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette expertise du DPF Allier qui a eu lieu en 2011, elle a été finalement motivée, là on a mis confirmée, mais en fait, elle est venue d'un radiopistage en 2009 qui a mis en évidence ces effets de blocage, je dirais pas inattendus, mais beaucoup plus graves que prévu. Donc ça, c'est ce radiopistage. Donc, en fait, tout retard dû à ces différents seuils augmente la mortalité, en particulier estivale, je vous l'ai déjà suggéré. Et ces causes de mortalité sont certainement des températures, peut-être des problèmes sanitaires liés aux températures, du braconnage, qui a été mis en évidence dans cette étude-là, et aussi de la prédation. Alors, pour l'Allier, il y avait un exemple avéré de prédation attribuée à une loutre. Ce n'est pas une fixation sur la loutre du tout. Les prédateurs, c'est naturel, mais il peut y avoir une interaction entre le fait de bloquer les poissons et de faciliter le travail des prédateurs. C'est ça qu'il faut bien voir. Et on retrouve cette même problématique pour le silure sur d'autres suivis. C'est le radiopistage de la basse creuse et de la gartempe en 2011, où 3 poissons, donc 10% de l'effectif suivi par radiopistage, 30 saumons initialement, donc 3 poissons sont de manière certaine, ont été capturés et mangés par des silures. Hein, voilà. Et ceci en lien avec du blocage, un stationnement prolongé des poissons à l'aval de barrage. Alors, il est bien apparu aussi que les vrais habitats, les bons habitats productifs pour les juvéniles de saumon et pour la reproduction, c'est la partie amont de l'Allier et la partie amont de la Lagnon. C'est là qu'on a les meilleures survies sous gravier. C'est là qu'on trouve les densités maximales de juvéniles quand on pêche à l'électricité en automne. Et en particulier pour l'Allier, c'est entre Langeac et Poutès, sans doute avec un effet de rétention sous Poutès qui accumule les géniteurs. Mais en tout cas, le biotope est favorable et ça donne de bonnes densités d'animaux. Voilà, donc importance de garantir l'accès et de passer pour accéder à toutes ces zones qui sont bonnes, et en particulier en amont de Poutès, parce qu'en amont de Poutès c'est encore meilleur, mais on a actuellement une sous-colonisation par les adultes. Donc tout ce potentiel ne s'exprime pas faute de géniteurs d'adultes, qui est un facteur limitant. Le nombre n'est pas suffisant. Sur la Lagnon, le cas particulier de Chambezon, microcentrale, est ressorti également. Là, on a un blocage des poissons. Or, la zone, à l'aval de ce point de blocage, elle est sous-optimale. Donc là, il y a un gâchis d'ovules et de juvéniles, c'est-à-dire que lors de la reproduction a lieu, il vaudrait mieux qu'elle se déroule par ces animaux à l'amont de cet obstacle-là. Autre forme de blocage, le bouchon vaseux de la Loire, on en a un tout petit peu parlé hier, des éléments précis nous ont été apportés donc par Mme Le Bayeux et par M. Fintin. Donc déjà, très bon suivi depuis 2007
des conditions physico-chimiques dans l'estuaire, de l'extension et de la nature du bouchon vaseux, avec un calendrier d'extension, enfin voilà, donc avec des détails sur les périodes où ce bouchon se produit selon les conditions hydrauliques, et puis suivi du comportement des grands migrateurs par des suivis donc de télémétrie. Les animaux sont marqués et on les détecte à plusieurs points de l'abattoir, où on voit que les poissons ont des comportements, notamment les aloses, très typés, et ils passent réellement à l'amont de la zone estuarienne quand l'oxygène dépasse 4 mg par litre, ce qui n'est pas, hélas, tout le temps assuré. Et faute de ça, ils stationnent ou ils se replient dans des zones moins défavorables plus bas. Peut-être même certains, sans la certitude, retournent-ils en mer pour éviter ces conditions défavorables d'un oxygène qui est inférieur à 4 mg par litre d'eau. Voilà. Alors, si on parle que de saumon, l'impact est probablement moins flagrant parce que le recouvrement des mauvaises périodes ne coïncide en général pas avec les périodes de migration des saumons adultes ou smolt, encore que pour le smolt, le risque de recouvrement est un peu plus grand. Pollution lumineuse, ça a été un peu une surprise, en tout cas pour certaines personnes, moi en tout cas, je vous le dis franchement, ça impacte les comportements animaux. Donc on a appris que beaucoup d'espèces animales, mammifères, oiseaux, insectes, ont un comportement nocturne, il y a des animaux strictement nocturnes, et que le développement de l'éclairage nocturne dans les villes notamment, ou à proximité, modifie ces comportements. Alors pour les poissons, il y a du très clair, on sait que les smolt ont un comportement largement nocturne de migration, et certaines couleurs du spectre lumineux dans la zone du bleu ont un effet d'attraction et de désorientation pour les smolt, comme ils l'ont pour des oiseaux migrateurs ou d'autres espèces. Donc il peut y avoir une perturbation à ce niveau-là. Il a été confirmé que quand on veut attirer les smolt vers un exutoire de dévalaison, un système qui facilite leur évacuation au droit d'un barrage, on utilise des lampes à vapeur de mercure qui sont dans ce spectre des couleurs bleues. Donc tout ça est tout à fait cohérent et donc pose question. Alors la ville de Vichy a été mentionnée avec une abondance d'éclairage et une augmentation récente de l'éclairage en bord d'Allier à l'amont du pont barrage de Vichy, et y compris un éclairage sous les ponts, donc dirigé vers l'eau, et peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer cette perturbation d'origine lumineuse. Une très grosse découverte pour ma part, j'étais totalement ignorant de cette chose-là. Alors, autre sujet, grand barrage Poutès. Donc M. Le Cunha nous a réexpliqué en quoi le projet avait été exemplaire et collaboratif. Ce choix de réaménagement de Poutès est intervenu évidemment après arbitrage politique, puisqu'il y a longtemps eu un débat qui était maintien ou effacement total. Donc là, c'est une solution entre guillemets intermédiaire, en tout cas alternative à ces deux options qui a été retenue. Et comment tout est fait pour minimiser l'impact sur le saumon. Alors, il y a eu néanmoins un débat sur le bien fondé du maintien en l'état, enfin, de la modification et non de la suppression totale de la chute. Sachant que, et c'était ressorti dans l'expertise du Grisam en 2005, la chute de Poutès proprement dite représente 20% de l'électricité produite par rapport au complexe global de Poutès, puisqu'il y a l'axe ANS qui produit donc la majorité de l'énergie. Toujours est-il que si on ne regarde que l'électricité produite par la chute de Poutès, le projet alternatif avec ses 4 mètres de haut au lieu de 17 mètres et bien d'autres modifications ne perd que 15% de l'énergie initialement produite, donc spécifiquement par ce barrage de Poutès, enfin par l'eau apportée par Poutès. Voilà, grâce à un système de pompage pour remonter dans la galerie, etc. Donc c'est une solution technique novatrice. Alors, en cas de non-respect du cahier des charges environnementales qui a été défini avec différents partenaires, dont l'ONEMA, qui inclut notamment qu'il faut que tous les saumons passent et que le retard pour ces animaux-là, les adultes, ne soit pas supérieur à un jour. En cas de non-respect, l'option d'ouverture est possible pour vraiment minimiser l'impact. Au-delà de 100 mètres cubes par seconde, les clapets s'abaissent de sorte que les sédiments circulent librement, et notamment les sédiments grossiers qui sont si importants pour l'évolution morphologique du cours d'eau, et y compris plus biologiquement comme site de frayeur pour les saumons. On a appris qu'il y a un suivi sédimentaire, il a été expliqué, qui sera fait avant et après réaménagement, qui est détaillé et qui est extrêmement bien pensé, et qu'il s'accompagne de suivi de frayères et de juvéniles des saumons, plus spécifiquement du saumon, parce que c'est vrai que l'ambition de ce réaménagement, c'est au premier chef pour le saumon. Alors, autre type d'obstacle, et là on passe dans la sphère totalement humaine, les obstacles intérieurs étaient anthropiques, causés par l'homme, mais les obstacles existent aussi dans la tête des hommes, ou dans leur comportement, ou dans leur culture. il apparaît assez clairement, notamment dans l'exposé que nous a fait M. Fonsonnay, que même quand tous les textes réglementaires convergent et poussent à améliorer le milieu, en termes de continuité par exemple, quand c'est classé, ou quand il faut épurer compte tenu de directives européennes qui nous y contraignent, les solutions et la mise en œuvre ne vont pas de soi. Et on rencontre des résistances et des gens qui n'en veulent pas, même si, dans le langage courant, ils diront qu'ils sont d'accord, leur comportement montrera et fera obstacle à la réalisation concrète. Donc il y a de l'opposition latente, parfois pas déclarée, parfois déclarée, mais souvent pas déclarée. Derrière le consensus et le discours, il y a des actes qui vont à l'encontre de l'application. Alors, parmi les causes qui ont été disputées, parce qu'il y a eu des questions là-dessus suite à l'exposé concernant la Lannion, on constate malheureusement un déficit d'application, d'une part rigoureuse, d'autre part équitable, c'est-à-dire la même chose pour tous, des règles liées à la réglementation, à la loi. Il peut y avoir des effets de connaissance individuelle, donc une forme de passe-droit, on compatit à telle personne qu'on connaît, ça existe. C'est un effet de proximité, et on aboutit trop souvent au cas par cas plutôt qu'à une application uniforme et logique. Voilà. Et là-dedans, l'État et ses établissements publics ne sont pas innocents, puisqu'ils sont supposés au premier chef faire appliquer ces choses-là. Donc la conclusion qui a été tirée de cet exposé notamment, suite à la discussion, c'est qu'ils ne vont pas toujours au bout de leur rôle et de leur mission. Il en résulte, et là c'est notre formulation à Aurore et à moi, un effet de solitude des porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on devrait faire, la force publique devrait faire, mais parfois le porteur de projet se sent seul. C'est lui qui est le relais de ça, et il en reçoit la difficulté de réalisation. Il est confronté à l'opposition et à la résistance sur le terrain. Et voilà, il est un vecteur un peu solitaire de quelque chose qui le dépasse quelque part. Donc voilà, c'est quand même un point assez intéressant parce que là, ça a été assez bien dit, je pense, dans l'exposé. Sur le cas de la Lannion, qui ne traite pas d'ailleurs dans le contrat territorial de la Lannion, il ne s'agit pas uniquement de libre circulation, de traitement des obstacles physiques, mais également d'amélioration de la qualité de l'eau. Il y a aussi des problématiques d'épuration, donc c'est bien la qualité globale du milieu et on retrouve le thème de l'atelier de manière extrêmement logique. Et hormis leur solitude, je veux dire, le combat et la solitude de l'individu qui endosse cette responsabilité ou le portage de ça, il y a également aussi une disproportion parfois parce que les moyens sont modestes. C'est des syndicats qui peuvent être de taille modeste, avec des revenus modestes. Alors certes, il y a des aides publiques et elles sont conséquentes, mais voilà, quoi. On se sent un peu petit face à l'immensité de la tâche. Enfin, c'est comme ça que nous le reformulerons. Alors, par ailleurs, sur tous ces problèmes complexes d'environnement et de biologie, qui interagissent évidemment, enfin de faune, besoin généralisé d'un éclairage grâce à des outils globaux qui centralisent l'information, tout ça pour aider à la décision et aider à la gestion de manière la plus intelligente possible. On redonnait l'exemple du radiopuissage de 2009 qui a conduit par exemple à l'expertise du DPF à vie en 2011. Et ça, c'est les tableaux de bord et observatoires. Alors pour l'avoir scénogrammé, mais on a appris qu'il en existe de similaires dans d'autres bassins par d'autres associations de migrateurs qui les portent. Pour l'avoir en tout cas, tableau de bord anguille dès 2001 et tableau de bord toutes espèces à partir de 2008. Alors ça rassemble les informations, ça les standardise, pour, y compris que ce soit injecté dans le système d'information sur l'eau, qui est ce système national de bancarisation d'informations et de données, qui servent au rapportage de la France à l'Union européenne sur les directives, les différentes directives, qu'elles soient ERU, qu'elles soient nitrate ou qu'elles soient cadre sur l'eau. Donc c'est le CIE qui est un enjeu national. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.